RMC, Intégral Foot Ligue 1, Arnaud Souk.
La troisième journée de Ligue 1 à l'honneur ce soir et ce match nul entre Lyon et Bordeaux. Conséquence Lyon avant les autres matchs de cette journée et seul deuxième du classement général derrière l'AS Monaco qui s'est imposé hier 1-0 à Saint-Symphorien grâce à un but de Radamel Falcao. Je vous rappelle les 5 affiches qui vont démarrer tout à l'heure à 20h. Nice, Guingamp avec comme principale attraction la première du néerlandais Wesley Sneijder. L'AS Saint-Etienne qui joue face à Amiens en quête d'une troisième victoire consécutive. Les Stéphanois face aux Amiennois qui seront eux en quête d'une première victoire tout court dans leur histoire en Ligue 1. Le match de milieu de tableau entre Montpellier et Strasbourg. 3 surprenants, promus surprenants. 8e qui accueillera Nantes. Et puis Rennes qui lui accueillera la Lanterne Rouge. Dijon, ça sera donc tout à l'heure à 20h. On va débriefer ensemble cette rencontre entre Lyon et Bordeaux. 3 buts partout. Des buts côté lyonnais de Fekir, Tété et Traoré. Côté bordelais, doublé de Malcolm et but de Lerager. On est avec Antonio, supporter des Girondins. Salut Antonio.
Ouais, bonjour Arnaud.
Bon, je t'imagine heureux après ce match nul. C'est comme match nul, mais celui-là, il était presque inespéré.
Je suis mesuré, mais j'ai envie de crier un gros ouf de soulagement. Parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est ce que je disais à Max au standard, c'est pour ça que j'aime le football, parce que ça nous fait passer toujours par des moments de peine, de joie, de désappointement. En fait, au bout de 25 minutes ou 23 minutes, on est mené 2-0. Tu te dis, bon, ça va être compliqué, on a déjà pris 2, faut essayer de pas prendre une valise. Et puis, cette expulsion de Darder, c'est vrai, je trouve qu'elle change quand même la physionomie du match, surtout par la stupidité des deux cartons jaunes de Darder, mais on vous en avait assez parlé. Ouais. On a ce but de Malcolm, aujourd'hui, c'est ce que je disais encore à Max, c'est...
Oui. Antonio. Ah, Antonio qui visiblement a un petit souci avec son téléphone. Bon, on va reprendre Antonio dans un instant. Tiens, on est avec Florian, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui a lui aussi fait le 32-16. Salut Florian. Ah ben toi aussi t'as un souci de téléphone, Florian.
Tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Allô, je suis là.
Ah, j'ai cru qu'on avait perdu toutes nos lignes.
Non, je suis là, tout va bien.
Bon, on entendait juste avant Antonio, supporter bordelais, dire on est passé par tous les états. Bah, c'est un petit peu le cas aussi pour les supporters de l'Olympique Lyonnais. Après, est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'être déçu ce soir au-delà du fait de voir une victoire qui s'échappe?
Ah bah clairement déjà avec le rouge hein, de
Darder.
Bah, déjà le match contre Rennes, déjà, il a failli nous mettre dedans avec la faute qui fait à 90e, on se prend un coup franc et on manque de peu l'égalisation. Déjà celui-là, et là aujourd'hui, on va dire que c'est de sa faute, hein. C'est de sa faute. Et puis après Genesio qui arrive derrière et qui fait rentrer déjà Ferry, c'est pas mal. Et après faire sortir Mariano, n'importe quoi. C'est sortir Depay, il est là, il sert à rien depuis qu'il arrive à Lyon, il a jamais servi à rien.
C'est vrai que le changement de la sortie de Mariano Diaz est quand même assez étonnante parce que c'est quand même 3 buts depuis le début de la saison. On l'avait vu notamment très très précieux dans les déplacements, dans sa capacité aussi à marquer, notamment sur les coups de pied arrêtés, ce dont ont eu bien besoin l'Olympique Lyonnais ce soir, même si ils ont quand même marqué 3 buts. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être intéressant, Mariano Diaz, jusqu'à la fin.
Clairement, moi, c'est un mec qui fait penser à Sonny Anderson dans le jeu. Je suis abonné au Parc OL, moi. Et c'est vraiment un mec, je pense que le buteur, c'est un mec. Là, aujourd'hui, c'est un match qu'on aurait dû gagner 3-4-0 si l'Inter sort pas. Si tout allait bien. Après, franchement, Genesio, je comprends pas du tout le changement qu'il fait. Et Memphis Depay, ça fait, ça va faire bientôt 8 mois qu'il joue à Lyon. Ça fait 8 mois que je regarde les matchs de l'OL. 8 mois que je regarde les matchs de l'OL où Memphis Depay joue. À rien du tout, à pas grand chose.
Tiens, juste une dernière question, Florian, quand même. À travers ce que tu vois ce soir, est-ce que tu imagines l'Olympique Lyonnais candidat sérieux au podium en fin de saison, à l'image de ce que tu as vu ce soir? On va pas tirer l'enseignement trop vite, mais ça fait quand même 3 matchs où l'Olympique Lyonnais marque beaucoup de buts et 3 matchs où l'Olympique Lyonnais, ce soir ne gagne pas, mais est en position de gagner sans cette frappe magnifique en fin de match de Malcolm.
En tant que favori supporter, je peux te dire que oui. Après, j'ai l'impression de voir un Lyon qu'on a vu l'année dernière, l'année d'avant, où des matchs comme ça, on passe à travers et ces matchs où on doit gagner et on ne sait pas. Donc au bout d'un moment, si on en fait 1, 2, 3 comme ça, ça va pas. Enfin voilà, on va jouer la 4e place, quoi. Mais bon, après c'est sûr que Nice fait peur. Monaco, je pense que Nice, Monaco, après Paris, c'est au-dessus, mais je pense que oui, on va chercher une place européenne, ça c'est sûr.
Ok,
ça, c'est sûr. je les vois dans le top. Deuxième derrière Paris.
Ah ben c'est noté, merci Florian d'avoir fait le 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais. On vous attend également au 32-16. Tiens, je crois qu'on a retrouvé Antonio, supporter bordelais. Antonio, on en était restés tous les deux au moment où tu me disais que t'étais passé par toutes les émotions. Voilà, et la joie finale de ce but de Malcolm, quel but d'ailleurs, du bordelais.
Ouais, c'est sûr. Encore une fois, bon, moi je suis content qu'on l'ait gardé parce que c'est vraiment quelqu'un, un jeune qui a beaucoup de talent et je pense que Gourvennec il voulait pas le vendre. Aujourd'hui, on peut dire quand même, bon, c'est vrai que c'est plus Lyon qui a perdu 2 points que Bordeaux qu'on a gagné un, parce que moi, on fait un super début de deuxième mi-temps où on manque de précision, comme disait Jeannot à l'antenne, d'efficacité. Quand on pense au troisième but, je me dis bon, bah voilà, on a perdu 3-1, c'est dommage. Même si on a joué à 10 une grande partie, la deuxième mi-temps plus 8 minutes en deuxième mi-temps.
Ok, Antonio, je te coupe. On a Bruno Genesio, le coach de l'Olympique Lyonnais, en direct sur RMC.
De passer à 10 de manière assez bête.
Tout à fait. Je pense que c'est le tournant du match parce qu'à ce moment-là, on mène 2-0.
Qui réagit à l'expulsion de Sergi Darder.
Plutôt l'emprise sur le match. Et ensuite on est contraint de jouer à 10 pendant une heure ou peut-être un peu plus, ce qui m'amène à faire des changements très tôt. Et certainement qu'on a pu le payer en fin de match, même si la deuxième mi-temps, et je pense au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'organisation défensive, quelque chose dont il faudra se remémorer, parce qu'on a été solidaires, on a été solides. On a réussi à mettre le troisième but qui aurait dû nous mettre à l'abri, malheureusement il nous a manqué 4 minutes.
Voilà, Bruno Genesio, le coach de l'Olympique Lyonnais après le match nul de Lyon face à Bordeaux. Trois buts partout, il réagissait notamment à cette expulsion de Sergi Darder.
Parce que, bon, le troisième but, c'est une frappe extraordinaire. Le deuxième, oui, c'est un ensemble d'erreurs, je pense, qui sont évitables, mais je pense pas que ce soit les changements. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts et que, en fin de match, il y a peut-être un petit peu moins de lucidité, un petit peu de déconcentration, qu'on a payé cash sur le deuxième but notamment.
Voilà, qui a été questionné également Bruno Genesio sur ses changements, sur son tout simplement la tactique qu'il a élaborée après l'expulsion de Darder. Il a fait notamment sortir l'attaquant Mariano Diaz pour faire rentrer Ferry en milieu de terrain pour pallier donc à cette expulsion de Sergi Darder. On est toujours avec Antonio au 32-16. Je te redonne la parole, Antonio. Je sais plus où je t'ai coupé.
Oui, non, je disais que c'est plus un point de gagné pour nous et 2 points de perdu pour Lyon. Même si c'est vrai que j'ai senti, bon, j'écoutais le match sur votre antenne, j'ai pas eu la chance de regarder le match parce que j'étais indisponible, mais c'est vrai que j'ai senti manque de sérénité quand même Lyon. Parce qu'une équipe qui gagne, on sait très bien que jouer à 10, des fois c'est un avantage parce que psychologiquement on est plus fort, on est plus solidaire et tout. Mais après ce troisième but, j'ai senti quand même un manque de sérénité de leur part. Et nous, ce deuxième but, quelque part, il nous revigore. Et bon, voilà, on sait très bien que dans les 4 dernières minutes, on marque ce troisième but qui nous permet d'avoir un point. But qu'on aurait dû marquer quand même en début de deuxième mi-temps, quand même. Puisqu'on a quand même une grosse
phase. Oui, c'est ça, parce que quand même Bordeaux a largement dominé les débats à la reprise, au retour sur le terrain, et ils auraient pu aussi le marquer à ce moment-là. C'est vrai que la fébrilité lyonnaise, elle a pas seulement été à 3 buts 1 en toute fin de match. Hein.
Complètement. Je les ai sentis assez fébriles en début de deuxième mi-temps où on a eu une grosse possession de ballon et puis on a bien attaqué. Et après ce troisième but où je pensais qu'ils s'étaient mis à l'abri, Lyon, mais bon, on s'aperçoit. Tant mieux pour nous, hein. Moi, je suis content aujourd'hui de reprendre. Tu parlais que Lyon avait beaucoup marqué. Nous, on a quand même marqué 7 buts en 3 matchs, donc c'est pas mal. Ouais. Un premier match à Angers où je pense objectivement qu'on doit gagner. On fait première mi-temps contre Metz assez médiocre, une très bonne deuxième mi-temps. Et là, on prend un point à Lyon. Je suis quand même complètement satisfait. Et même si j'ai un point noir quand même sur un manque d'attaquants, parce que le petit Mendy, il est encore jeune, Laborde, il amène, c'est un battant, il se bat, mais il nous manque quelqu'un quand même pour mettre les buts au fond. Et on s'aperçoit encore que aujourd'hui Malcolm et Sankaré ont été les deux meilleurs joueurs du côté bordelais.
Merci Antonio d'avoir fait le 32-16, supporter des Girondins, également avec Anthony, autre supporter de Bordeaux. Salut Anthony.
Salut messieurs, ça va bien?
Oui, ben ça va, et toi?
Eh bien, ça va pas trop mal.
Bon, après ce match nul, 3 buts partout de Bordeaux, quel match spectaculaire. Franchement, on a vu, en plus d'un scénario spectaculaire, on a vu quand même des sacrés buts entre celui de Fekir, celui de Mendy pour l'Olympique Lyonnais, et celui de Malcolm, le dernier là, pour égaliser. T'as dû sauter de ton canapé, toi, si t'étais pas au stade.
Ben, sur le troisième, effectivement, sur le troisième qu'on marque, effectivement, bon, ça soulage. Mais alors au-delà du scénario qui est effectivement incroyable, au niveau du contenu, franchement, moi je suis inquiet, quoi. Je suis inquiet parce qu'en fait c'est la continuité de ce qu'on vit depuis moins d'un mois, c'est-à-dire depuis la déroute à Vidéotron, où il s'est rien passé à l'aller, il s'est rien passé au retour. À Angers, il y a eu une semi-réaction. À 3 contre 3, il s'est rien passé. Aujourd'hui, il s'est rien passé, malgré le score. Donc j'espère que Gourvennec va pas être aveuglé par le 3-3. Et puis qu'il va avoir le contenu qui est quand même ultra léger. Après, moi je suis d'accord, on a marqué 7 buts. Mais combien de nos... Combien de nos attaquants?
Vas-y, Anthony.
Combien de nos attaquants? On a eu quoi? Malcolm qui a marqué 2 buts. Après, le reste, c'est sans carré.
Qui a marqué 2 buts aussi depuis le début de la saison. T'as Malcolm qui a 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. C'est quand même pas mal.
Pour l'instant, le bilan pour
une équipe qu'on présentait quand même comme plutôt moribonde et pas forcément apte à jouer les premiers rôles ou même les seconds rôles de cette Ligue 1, il est quand même plutôt pas mauvais, ce bilan, pour l'instant.
Alors honnêtement, comptablement, c'est pas mal. Mais après, moi, je pense que comptablement, arrive un moment, il va pas falloir se dire, il faut retenir que les 3 points, il faut retenir que le point pris. Il va falloir se poser des questions sur ce qui se passe dans l'équipe. Parce que moi, je vois des joueurs qui étaient là l'année dernière. Alors, Gourvennec se félicitait d'avoir la même équipe, d'avoir la même ossature. Mais j'ai l'impression parfois que les mecs, ils se connaissent pas, quoi.
Ouais.
À gauche, on a un vrai problème. On a 3 joueurs, arrière-gauche, Contento, Punché et Pelnard. Et il y en a pas un qui est passable, quoi. Donc à un moment, je sais pas trop. J'attends la fin du mercato, voir si on prend un 9, parce que sans 9, il faudra rien espérer. Même 6e, je pense que ça sera miraculeux. Après, il faut un 3. Et puis il faut voir un petit peu ce qui se passe, s'il y en a qui sont encore motivés pour jouer à Bordeaux. Sinon, il faut les dégager dans les 15 jours.
Okay.
Je pense à Bada, par exemple.
Ouais.
Qui est l'ombre de lui-même. Après, inquiet sur ce que je vois depuis le début de la saison. Mais après, comptablement, c'est effectivement pas mal. Donc, on va attendre la fin du mercato et puis on verra ce qui se passe.
Merci, Anthony, supporter de Bordeaux, d'avoir fait le 32-16, d'avoir été en direct dans l'Intégral Foot sur RMC. Bonne soirée à toi.
Ouais, merci, vous aussi.
On va continuer dans un instant avec Stéphane et Jules, supporter de l'Olympique Lyonnais. Juste un petit mot, c'est la mi-temps entre Stock et Arsenal, match de la deuxième journée de Première Ligue. Maureen Lou.
Ouais, mi-temps sur le score de 0-0 entre Stock et Arsenal et domination stérile pour l'instant des Gunners qui ont bien du mal à aller inquiéter Butland, le portier de Stoke, même si on a vu 2-3 occasions intéressantes, notamment de Aaron Ramsey ou d'Oxlade Chamberlain. Il faudra faire mieux pour les Gunners dans cette deuxième période. Pour l'instant, donc 0-0 à la mi-temps entre Stoke et Arsenal.
On est avec Jules qui a fait le 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Jules.
Oui, bonjour. Bon, les gars.
Quelque chose me dit que toi, t'es pas très content du match nul, 3 buts partout des Lyonnais face à Bordeaux.
Oh, je suis énervé, quoi. C'est pas possible, merde. Genesio, j'étais le premier à le défendre l'année dernière, mais là, ce match-là, c'est pas possible, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. Tu sors pas Mariano pour mettre.
T'aurais sorti qui, toi?
Memphis ou Cornet. Je rentre pas Cornet, et tu sors Memphis tout de suite. Et Memphis, tu sais très bien que c'est une qui depuis 7-8 mois qu'il est là. Tu mets Fekir à gauche et tu laisses Mariano dans l'axe. Laisse-le tranquille, ce pauvre garçon, il a envie de jouer. C'est pas normal, quoi, ces choix. Morel, qui est titulaire, Morel, il fait que des conneries.
Bon, putain. Après, c'est bien gentil de mettre la faute sur Bruno Genesio, mais la faute, c'est d'abord celle de Sergi Darder qui a pas su tenir ses nerfs. Ouais. Non, mais enfin, Darder, c'est marrant Darder, parce que j'en parlais précisément hier dans l'after, figure-toi, avec Nicolas Villas et Alpha Baldé, je disais, le gros problème de l'Olympique Lyonnais, c'est Sergi Darder qui est pas capable de tenir ses nerfs. Ben, il a encore prouvé aujourd'hui que c'était un petit peu compliqué en milieu de terrain.
Mais bien sûr. Mais il a rien à faire là. Je comprends pas que ça soit la feuille de match. C'est pour ça, il faut vite recruter Krikoviak ou le petit Diop là. C'est pas, au milieu, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Alors moi, je tiens à féliciter Bertrand Traoré. C'est un tueur. Vraiment, c'est un tueur, ce mec.
Ah ouais, Nabil Fekir, pas mal aussi.
Ah, Fekir, oui. Alors, espérons qu'il va se rattraper de sa saison manquée de l'année dernière.
Bah, pour l'instant, c'est bien parti. 3 buts. 3 buts et il me semble une passe décisive.
Ah, mais 3 à 5 minutes de la fin, quoi. Putain, je suis énervé, quoi. C'est
ouais,
pas
mais
normal.
Bon, là, après, c'est pas non plus qu'une question de coaching, si tu veux, quoi. Enfin, parce que le changement de Bruno Genesio, c'est, en l'occurrence, Mariano Diaz, il le fait sortir en fin de première période. Donc là, c'est plus une question de coaching, là. C'est une question de l'Olympique Lyonnais qui est de l'équipe, là, qui était sur le terrain, qui était un petit peu à court physiquement, quoi.
Voilà, après, l'excuse que je leur trouve, entre guillemets, c'est que bon, c'est le troisième match, faut leur laisser le temps de s'y faire, quoi. Voilà, bon. C'est le début. Mais là, on va à Nantes samedi prochain. Ça va pas très facile non plus à Nantes. Hein. Donc, bon, on verra bien. Et, ben, voilà. Je peux juste embrasser mes deux enfants, Jonathan et Jessie, qui m'écoutent.
Eh ben, c'est noté, Jules. Voilà. Merci. Jules, supporter de l'Olympique Lyonnais, d'avoir fait le 32-16. Tiens, juste un résultat de vélo, le contre-la-montre inaugural, contre-la-montre par équipe de la Vuelta, qui se déroulait aujourd'hui à Nîmes avec la victoire du team BNPC devant la Quick Step de Julien Alaphilippe et la Sunweb, notamment de Wilco Kelderman et de Warren Barguil. Il va y avoir des Français d'ores et déjà bien placés sur cette Vuelta. C'est le Tour d'Espagne, mais ça commence en France, une fois n'est pas coutume. Tiens, d'ailleurs, on a eu l'info cet après-midi que la Vuelta, la prochaine Vuelta 2018 commencerait à l'opposé, cette fois-ci en Andalousie, du côté de Malaga. Stéphane, supporter de l'Olympique Lyonnais, a fait le 32-16. Salut Stéphane.
Oui, salut, bonsoir à tout le monde.
Bon, ce match nul, 3 buts partout. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Écoute, moi je sors du stade avec mon collègue. Ben, j'étais satisfait quand même du match nul, parce que en tant que supporter lyonnais, à 10, c'est pas facile quand il reste une minute, une heure de jeu. On se retrouve à 10, on se dit que ça va être un peu compliqué pour pouvoir tenir au score. Mais même quand même combatif. Malheureusement, j'ai vu encore Memphis Depay pas terrible. Faut le dire, vraiment pas terrible. Je comprends pas pourquoi il est titulaire en fait d'entrée de jeu. Voilà, je trouve ça un peu dommage, quoi. Et Darder, ben oui, de toute façon, il mérite un peu son rouge, parce que ben, il sait pas. Non, il a rien montré, hein. Il a rien montré.
Juste un petit mot, Stéphane, sur quand même le scénario du match. On voit quand même de sacrés matchs en Ligue 1. On le dit, on le répète, hein, depuis le début de la saison. Oui. C'est que la troisième journée. Toujours pas un seul 0-0. Il y a quand même des scénarios de dingue. Et encore une fois, cet après-midi, on a vu quand même du super football, quoi.
Oui, voilà, ouais, j'étais très content pour ça, le match nul, je m'en contente, parce que franchement, on a très bien joué. Cette année, on a recruté des défenseurs, et je pense que c'était vraiment là où on pêchait. Et je pense que c'est vraiment un bon point avec Marcelo, chaque fois, il nous sort franchement des super matchs. Il n'y a rien à dire. Après, Mendy, Zangui qui revient un peu de blessure, quand même, parce que je trouve qu'il est pas mal.
T'étais au stade, toi, Stéphane?
J'étais au stade, oui.
D'accord.
J'étais au stade.
Ok.
Non, c'est bien. Franchement, on a fait quand même un bon match. Malheureusement, je pense sincèrement qu'on aurait été à 11, vu ce que Bordeaux a présenté. À 11, je pense qu'on aurait gagné, mais sérieusement, on aurait vraiment gagné le match. C'est sûr. Pour moi. Franchement, ouais.
Eh ben voilà, le tournant, c'est la sortie l'expulsion de Sergi Darder après deux cartons jaunes consécutifs en à peine 4 minutes. Voilà. Merci Stéphane d'avoir fait le 32-16, supporter de l'OL. Bonne soirée à toi.
Merci, bonne soirée à vous.
Allez, dans un instant, on présente les 5 rencontres du soir. Nice, Guingamp, AS Saint-Etienne, Amiens, Montpellier, Strasbourg, 3 Nantes, Rennes, Dijon. On sera sur tous les terrains, dans tous les stades avec nos envoyés spéciaux. Tiens, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'une nouvelle star va voir une pelouse de Ligue 1 avec un maillot de titulaire, le maillot de l'OGC Nice en l'occurrence. Wesley Sneijder est titularisé par Lucien Favre. On va aller prendre justement la température dans un instant à l'Alliance Riviera avec Timothée Mémon pour ce match Nice-Guingamp. A tout de suite sur RMC, 19h23.
RMC, Intégral Foot Ligue 1, Arnaud Souk.
19h26 dans l'Intégral Foot sur RMC. 5 rencontres au programme ce soir à 20h. Nice-Guingamp, Saint-Etienne-Amiens, Montpellier-Strasbourg, 3 Nantes, Rennes-Dijon. Et quel multiplex, parce qu'à l'Alliance Riviera, il va y avoir une grande première ce soir, Timothée Mémon. La présence de Wesley Sneijder sur la pelouse pour les Niçois. Salut Timothée.
Salut à tous. Effectivement, Wesley Sneijder qui sera titulaire pour cette rencontre, c'est confirmé. La feuille de match vient de tomber. Il sera bien présent en soutien de l'attaquant, comme prévu. Wesley Sneijder qui, devrait permettre d'apporter sa patte à l'OGC Nice. Wesley Sneijder, en quelques statistiques, c'est 5 buts, 15 passes décisives l'année dernière avec son club turc de Galatasaray. 5 buts et 7 passes décisives la saison précédente. Bref, c'est un joueur décisif. Voilà ce dont l'OGC Nice a besoin ces derniers temps. L'OGC Nice Nice qui reste, faut-il le rappeler, sur 2 nuls contre l'Ajax et 3 défaites, 2 en championnat, 1 contre Naples. C'était cette semaine, ce mercredi. Il va faire du bien clairement Wesley Sneijder et tout le monde l'attend ici à l'Allianz Riviera pour essayer de bousculer un petit peu le ronronnement de cette équipe niçoise qui avait fait une très belle saison la saison dernière et qui a du mal à reprendre sa marche en avant. Et puis une autre personne sera scrutée de très très près, peut-être avec un peu moins de bienveillance, c'est évidemment Johan Cardinal. La prestation du gardien sera forcément scrutée. Il a déjà coûté 3 buts sur les 3 derniers matchs à l'OGC Nice, ça fait beaucoup. Il y a un homme qui s'appelle Walter Benitez qui est au sein de l'effectif niçois dont on disait le plus grand bien quand il est arrivé. Il ne s'est jamais imposé, il n'en a jamais vraiment eu l'occasion non plus. La rotation pourrait commencer à trotter dans la tête de Lucien Favre au profit d'une mauvaise prestation du Johan Cardinal.
Dis-moi, après la première de Neymar la semaine dernière avec le PSG à Guingamp, les Guingampais s'en vont encore, donc une première ce soir, celle de Wesley Sneijder. Bon, cette fois il y aura d'autres ambitions pour les Guingampais quand même.
Ouais, ça s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment, hein, pour le GC Nice, pour l'en avant Guingamp, effectivement, qui a essuyé les foudres de Neymar et de l'avalanche médiatique autour de sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain dernière. Aujourd'hui c'est face à Wesley Sneijder effectivement, mais c'est clair que c'est pas avec les mêmes intentions quand on est l'en avant Guingamp, et d'ailleurs quand on est allé 15 des 20 clubs de Ligue 1 et qu'on reçoit le Paris Saint-Germain, c'est un peu un match bonus en espérant grappiller un point ici ou là. Contre l'OGC Nice, il y a clairement quelque chose à faire, surtout face à cette OGC Nice là qui est en difficulté depuis le début de la saison. L'en avant Guingamp avait bien débuté son championnat par une victoire à l'extérieur contre Metz après s'être incliné donc 3-0 la semaine dernière face au Paris Saint-Germain. Ils ont donc 3 points au compteur, mais ils ont quelques certitudes et Antoine Camboire espère bien bousculer cette équipe de Nice sur le plan mental, parce qu'il l'a dit en conférence de presse, il sait que Nice a la pression sur ses épaules, mais aussi sur le plan physique, parce qu'il est vrai que Nice, mine de rien, a déjà enchaîné 5 matchs durant la fin du mois de juillet, début du mois d'août.
Les compos de la soirée pour les deux équipes en détail, Timothée, Nice, Guingamp.
Ouais, les compos de ces deux formations, eh bien ce sera Johan Cardinal qui sera titulaire dans la cage de l'OGC Nice. On va retrouver Le Marchand et Dante en défense avec Seri et Jallet. Il y aura Souquet et Jallet au milieu de terrain. On va retrouver Seri, Pierre Lesmelou, Tamez, Rémi Walter et donc en soutien d'Alassane Pléa, Wesley Sneijder titulaire pour cette rencontre. Du côté de l'en avant Guingamp, c'est plutôt du classique avec Johnson dans la cage, Ikoko, Carbrat, Rebocho, Sorbon, Bla, Do, Dido, Firi et puis Briand et Camara pour animer la pointe de l'attaque guingampaise.
Merci Timothée, on te retrouve évidemment dès 20h pour le coup d'envoi de cette rencontre entre Nice et Guingamp. On va récapituler toute l'actu sport du jour à 19h30 avec Benoît Boutron. Benoît, avec notamment une entrée remarquée, celle de Blaise Matuidi à l'instant, du côté du Juventus Stadium.
Exactement, la première pour Matuidi sous le maillot de la Juventus. C'est la première journée de Serie A, la Juve qui mène 3-0 contre Cagliari après 70 minutes. Blaise Matuidi qui remplace donc Gonzalo Higuain et qui dispute ses premières minutes en Italie. Toujours en football, la troisième journée de Ligue 1, Lyon abandonne sa place de leader après le nul concédé contre Bordeaux, 3-3 au Groupama Stadium. Je vous rappelle, dans 30 minutes, coup d'envoi de 5 rencontres sur RMC. Nice-Guingamp donc, Rennes-Dijon, Montpellier-Strasbourg, Saint-Etienne-Amiens et 3-Nantes. La Ligue 2, quatrième défaite d'affilée pour Lens, battue par Brest 4-2 à Bollard. Le président Gervais Martel décidera ce soir de l'avenir de son entraîneur Alain Casanova. L'Angleterre également avec Manchester United qui a écrasé Swansea 4-0, victoire de Liverpool 1-0 contre Crystal Palace. Et puis l'Allemagne, le carton de Dortmund à Wolfsburg, victoire 3-0. Le cyclisme avec l'équipe BMC qui a remporté le contre-la-montre par équipe à Nîmes, c'est la première étape de la Vuelta. C'est l'Australien Rohan Dennis qui endosse le maillot rouge de leader. Le rugby également, avec la première journée du Rugby Championship. L'Afrique du Sud a battu l'Argentine 37-15 à Port-Elisabeth. Un peu plus tôt, la Nouvelle-Zélande a balayé l'Australie 54-34. Enfin, le rallye avec le rallye d'Allemagne. Et donc, Sébastien Ogier, qui est toujours troisième du général après la deuxième journée, il compte 32 secondes de retard sur le leader Aude Tanak après 16 spéciales.
Merci Benoît Boutron, le Flash Sport, le nouveau rendez-vous d'Actu Sport de RMC, le samedi et le dimanche de 14h à 19h30, tous les sports, toutes les compétitions, tous les résultats, les programmes, c'est seulement sur RMC. Dans 29 minutes, le coup d'envoi des 5 rencontres du soir, Nice-Guingamp, Saint-Etienne-Amiens, Montpellier-Strasbourg, 3-Nantes, Rennes-Dijon. C'est la troisième journée de Ligue 1 après le match nul tout à l'heure de Lyon et de Bordeaux, 3 buts partout. Tiens, on est avec Quentin, supporter de l'OGC Nice qui a fait le 32-16. Salut Quentin.
Salut Arnaud.
Bon, je crois que tu voulais discuter compo, toi. Je crois que c'est la compo de Lucien Favre, là, côté niçois, que tu comprenais pas trop.
Bah, c'est pas mal la première fois, malheureusement. Bon, après, évidemment, Lucien Favre reste un excellent entraîneur et de loin, vraiment de loin, le meilleur qu'on ait eu depuis de nombreuses années. Après, ouais, il y a certaines choses que je comprends pas et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de niçois. Notamment le cas d'Olivier Boscagli, qui a fait une entrée surprenante et assez impressionnante face à Naples au San Paolo. Il nous a quand même permis de retrouver une stabilité que Sarre n'avait pas du tout dans ce match. Il nous a amené un certain apport offensif. Il a été quand même assez important. Il a remis de la vitesse, de la précision dans les passes, etc. Et là, ce soir, il est même pas dans le groupe. C'est assez surprenant. Il est dans le groupe de la CFA, donc il n'est pas blessé ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de suspension. Après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, première titularisation de Tamézé, donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Il y a certaines choses aussi que je comprends pas, notamment Lesmelou, un joueur que j'adore mais qui arrête pas d'enchaîner. Je pense qu'on va finir par le griller en n'arrêtant pas de le titulariser comme ça. C'est assez surprenant. Après, voilà, Schneider, moi, ouais, je suis très content. On va voir un petit peu ce qu'il vaut. Mais voilà, c'est surtout Boscagli. Moi, j'aurais bien voulu le voir à gauche, surtout qu'il a fait une très bonne entrée. Là, mettre Jallet à gauche, enfin, je ne sais pas quel signal il envoie à Boscagli, quoi. Parce qu'il s'entête à mettre Sarr depuis des semaines, qui n'a pas été bon, malgré ouais, son début de saison exceptionnel l'année dernière. Et là, il est avec la CFA. Enfin, je trouve ça un petit peu moyen sur ce cas-là.
Bon, après c'est pas non plus scandaleux de voir peut-être Lucien Favre mettre Jallet à cet endroit-là. Jallet, c'est aussi l'expérience qui prime là, tu vois.
Ah oui, non, mais bien sûr, il a été extrêmement important la semaine dernière à Naples, mais c'est vrai que le mettre même pas dans le groupe, c'est vrai que c'est assez incompréhensible parce qu'il y a un jeune comme Patrick Burner qui est très bon aussi, mais voilà, lui il est dans le groupe. C'est pour ça que je comprends pas quand il peut s'entêter avec ça et être extrêmement difficile de l'autre côté avec un joueur comme Boscagli qui est super bon. En tout cas, à chaque fois qu'il entre, il est super bon. Après voilà, ce soir on n'a pas besoin de parler de compo deux heures, il faut absolument gagner. Là, deux matchs de défaite, c'est quand même assez triste, assez dommage. Donc là, faut vraiment se remettre dans le coup. Là, à domicile contre Guingamp, qui me fait assez peur d'ailleurs, je suis assez inquiet. Il faut absolument gagner là. Voilà, pour se mettre dans le coup pour Naples, il faut qu'on ait au moins qu'on retrouve de l'efficacité parce que le jeu, on l'a pas perdu. On est toujours aussi fluide que l'année dernière sur les relances, etc. Mais en attaque, c'est pas possible de rater autant d'occasions.
Ok, un petit pronostic, Quentin, pour la rencontre ce soir.
Alors franchement, un petit 1-0, ça m'irait très très bien. Petit pronostic, allez, but de Pléa devant le public et passe de Schneider. Voilà, allez, on y croit.
C'est noté, merci Quentin, supporter de l'OGC Nice.
Bonne soirée
à toi, bon match. Allez, on va parier justement sur cette rencontre.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker.
Il présente les flash sports, mais il fait aussi très bien les paris. Eh oui, tu nous dégotes des cotes à chaque fois extraordinaires, Benoît Boutron.
Oui. Malheureusement, ça passe rarement. Mais ah bon, non, non, ça va. J'ai un beau taux de réussite, surtout sur les matchs de Ligue 1 du samedi soir.
Tu vas tenter quadruplé de Schneider ?
Non, je vais te tenter un match nul. Je te donne les cotes pour commencer. 1,85 pour Nice, 3,35 le nul, 4,10 pour Guingamp. Le problème, c'est que Nice n'a remporté aucun des 5 derniers matchs de Ligue 1. Si on compte également la fin de saison dernière, il y a eu 4 défaites sur les 5 dernières journées et un match nul. Et puis Guingamp prend toujours un but à l'extérieur. C'est une stat assez marrante. Depuis 18 matchs à l'extérieur, Guingamp prend toujours au moins un but, donc je vais te jouer le nul avec des buts de chaque côté. C'est coté à 4. Le but de Pléa, comme nous l'a indiqué l'auditeur, c'est 2,70. Pour info, ceux qui veulent jouer Schneider, c'est 3,80. Et côté Grimpé, on peut jouer n'importe qui. Pourquoi pas Jimmy Briand, c'est la meilleure cote ce soir. But de Briand, c'est pas mal coté, c'est 2,40.
Et tous ces paris, tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, on continue à présenter le multiplex, les matchs de 20h. Juste un mot d'abord du match de Première Ligue. Stoke City, Arsenal, Morin Louton le doigt. Et oui, parce qu'il y a eu un but au BET 365 Stadium.
L'ouverture du score de Rezé, la recrue de Stoke, qui donc permet à Stoke de prendre l'avantage, de mener 1-0 face aux Gunners. C'est un très joli but, Rezé, qui récupère dans sa partie de terrain, qui accélère, qui sert Berraino. Et Berraino lui remet derrière dans la surface. Il a juste Petr Cech d'une frappe croisée parfaite. Voilà donc Stoke City qui prend l'avantage 1-0 face à des Gunners qui avaient certes dominé la première période, mais une domination stérile, ils n'étaient pas parvenus à trouver l'ouverture. Et donc ils sont punis, les Gunners. Ils vont devoir revenir pour tenter d'aller chercher autre chose qu'une défaite ici à Stoke. Donc 49 minutes de jeu, Stoke qui mène désormais 1-0 face à Arsenal.
Dans 24 minutes, le coup d'envoi de Nice, Guingamp, de Montpellier, Strasbourg, de Troyes, Nantes, de Rennes, Dijon et d'AS Saint-Etienne Amiens. On va aller à Geoffroy Guichard. Retrouve retrouvé Morgane Maury pour ce match de la troisième journée de Ligue 1. Salut Morgane.
Salut Arnaud, bonsoir à tous.
Bon, c'est un bon départ pour les Stéphanois, assez aussi surprenant soit-il. Ils en sont à deux victoires depuis le début de la saison. Bah, l'occasion de confirmer devant leur public ce soir, hein, Morgane.
Exactement, ils sont extrêmement bien partis dans ce championnat. Les hommes d'Oscar Garcia, succès contre Nice en ouverture 1-0, succès sur la pelouse de Caen, ensuite 1-0 également. Face à eux ce soir, Amiens, promu de Ligue 2. L'affiche semble déséquilibrée en faveur des Stéphanois. S'ils remportaient ce troisième match consécutif, eh bien, ce serait la première fois depuis 1973 que Saint-Étienne ferait 3 victoires sur 3 possibles consécutivement en début de saison.
Ça, c'est dur. Hein.
C'est très important. C'est très important pour les Stéphanois de remporter cette rencontre ce soir, d'autant plus qu'il y a le Paris Saint-Germain qui s'avance la semaine prochaine, vendredi prochain, au Parc des Princes.
Amiens, pour Amiens, Morgane, il va falloir sérieusement s'y mettre, parce que pour l'instant, bah, les Aminois, ils ont été surpris à deux reprises face au Paris Saint-Germain, ça on s'y attendait. Plus surprenant peut-être ce match à la Licorne face au SCO Angers la semaine dernière, et la défaite 2-0 encore une fois pour les Aminois.
À chaque fois, deux défaites 2-0 pour les hommes de Christophe Pélissier. Début compliqué pour la première saison d'Amiens en Ligue 1. Jamais le club picard n'avait fréquenté le plus haut étage du football français. Les débuts sont compliqués. Le coach réclame un plus de vigueur sur le terrain, plus d'acharnement, plus de combativité. Ce qu'il a dit cette semaine, le supplément d'âme, ça pouvait suffire pour gagner des matchs, récolter des points en Ligue 2, mais à l'étage supérieur, face aux meilleures équipes du football français, ça ne suffit pas. Peut-être qu'avec Gaël Kakuta en attaque, Amiens va inscrire son premier but dans son histoire en Ligue 1, mais ça va être compliqué sur la pelouse de Geoffroy Guichard, parce qu'en plus Saint-Étienne récupère ses supporters, ses copes, Arnaud. Les copes étaient absents, étaient interdits de stade lors de la réception de Nice, lors de la première journée.
Les compos des deux équipes, Morgane.
On va commencer par les Amiénois, si tu le veux bien. Arnaud avec Gürtner, bien sûr, dans la cage. Et cette défense à 5 pour les Picards avec Dibassi. Bonnemer, le joueur le plus expérimenté côté Amiénois. Guano, Adenon et Julien Yesh. Au milieu, El Aja, Monconduit et Dombélé. Et en attaque, Moussa Konaté, qui est arrivé récemment de Sion en Suisse. Et Gaël Kakuta, qui a bien connu la Ligue 1 avant de bourlinguer un peu partout sur la planète. Du côté de Saint-Etienne, on retrouve bien sûr Stéphane Ruffier dans la cage, et en défense, Pierre Gabriel, Loïc Perrin, Théophile Catherine et Saïdi Janko, l'une des recrues de ce mercato. Au milieu, Brian Dabo, Ole Selnaes et Hassan Dius pour les Verts. Et en attaque, le numéro 9 des Verts cette saison, c'est Loïs Diony, l'ancien joueur de Dijon. Il est aligné, et Romain Amouma est également présent, lui qui a déjà marqué un but cette saison en Ligue 1. Et Jonathan Bamba également buteur cette saison avec les Verts.
On accueille Tony qui a fait le 32-16, supporter de l'AS Saint-Etienne. Salut Tony.
Salut tout le monde.
Je crois que t'es dans les gradins, dans les tribunes même de Geoffroy Guichard.
Ouais, je me suis un petit peu extériorisé, sinon vous n'allez pas m'entendre. On fait toujours du bruit à Geoffroy Guichard, donc c'est pour ça.
Il paraît.
Ouais, bon. Déjà avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour les Basquiers, voilà, qui ne doivent pas être où ils sont en ce moment. Et je voudrais penser aux Lensois aussi, qui ont eu un match difficile cet après-midi, voilà, parce que je les aime bien aussi.
Les Lensois qui effectivement sont inclinés 4-2 à domicile face à Brest, quatrième défaite d'affilée en 4 journées de Ligue 2. Bon, sur le match de l'AS Saint-Etienne, j'imagine assez satisfait du début de saison, peut-être pas dans le contenu, en tout cas au moins sur d'un point de vue comptable, 2 victoires en 2 matchs et peut-être une troisième ce soir.
Ouais, peut-être une troisième ce soir. Ça fait 50 ans qu'on n'avait pas gagné les deux premiers matchs, entre guillemets. Je crois que la dernière fois, c'était en 67. Donc voilà, on est bien parti. Après, au niveau du contenu, c'était pas trop mal contre Nice. Ayant fait le déplacement à Caen la semaine dernière, ça a été un petit peu compliqué. Ça a été même difficile. On gagnait 1-0 difficilement. Faut reconnaître que Caen pouvait mériter le match nul. Maintenant, voilà, on a 2 matchs. On est chez nous. Comme vous le disiez, on a retrouvé nos copes. Mmh. Voilà, donc il y a, avec tout le respect qu'on a pour Amiens, on doit battre Amiens, quoi. Voilà, peu importe la manière, à la limite, mais voilà, faut qu'on gagne, quoi.
Tu sens une patte Oscar Garcia, toi?
Pardon?
Tu sens une patte Oscar Garcia?
Voilà, on y sent déjà pour vivre l'échauffement des joueurs, c'est plus du tout ce que c'était avec Christophe Galtier. Ils ont tous, il y a des petits groupes et il y a tout le temps un préparateur avec eux, ce qui n'était pas le cas sur les autres années. Donc déjà, on sent sa patte au niveau du jeu, c'est pareil, on sent plus d'agressivité. Après, je suis un petit peu déçu d'écouter tout ce qu'il dit sur Galtier. Voilà, Galtier c'était ci, c'était ça. Faut pas oublier le travail qu'il a fait. Faut pas cracher dans la soupe non plus, quoi. Voilà.
Ok, merci Tony d'avoir fait le 32-16, supporter de la Saint-Etienne. Tiens, juste un petit pronostic sur le score final.
Le score final, allez, je dis, allez, je vais laisser une chance aux Amiénois, je vais dire 3-1.
Allez, c'est noté. Merci, Tony. Bon match à toi, à Geoffroy Guichard. Donc, cette rencontre entre Saint-Etienne et Amiens. Dans quelques instants, dans l'intégrale foot sur RMC, on présente les trois autres rencontres du soir. Montpellier-Strasbourg, 3-Nantes, Rennes-Dijon. Tiens, je vous donne aussi cette petite statistique que je sors de mon chapeau à l'instant. Vous avez vu le but de Nabil Fekir pour l'Olympique Lyonnais, 54 mètres. Ça en fait tout simplement sur les 10 dernières saisons. Le deuxième but, le plus lointain en Ligue 1. Derrière, Saber Cliffa qui avait mis avec Evian un but de 64 mètres face à Nice, et devant donc le but de, inscrit par Memphis Depay la saison dernière, son coéquipier à l'Olympique Lyonnais. Allez, 19h42 sur RMC, on revient dans une petite minute.
RMC, Intégrale Foot Ligue 1, Arnaud Souk.
19h45 dans l'Intégrale Foot sur RMC. Dans un quart d'heure, le coup d'envoi de 5 rencontres de la 3ème journée de Ligue 1. Nice-Guingamp, Saint-Etienne-Amiens, Montpellier-Strasbourg, on va y aller dans un instant. 3-Nantes et Rennes-Dijon, vous ne raterez rien sur RMC, vous ne ratez rien également de la Première Ligue. Stoke City-Arsenal, ça c'est la 2ème journée où on est au Morin Lou.
58 minutes de jeu et Stoke qui mène toujours 1-0 grâce à un but de la recrue Rezé, l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, Arsenal campe dans la moitié de terrain de Stoke, mais a bien du mal à inquiéter le portier Jacques Butland, qui est d'ailleurs très bon ce soir ici au 365 Bet Stadium. Je le répète tellement il est beau ce stade. Voilà.
Tu le lis même à l'envers là, parce que c'est le 365.
Oui, exactement. Et difficile à retenir aussi. Bref, en tout cas, Arsenal domine, mais ne concrétise pas sa domination. Et c'est Stoke qui mène 1-0 face à Arsenal, moi, grâce à un but de Rezé.
Moi, je pense que Benoît sera d'accord avec moi. Je trouve pas ça du tout difficile à retenir. En tout cas, au Juventus Stadium, la Juve qui déroule face à Cagliari.
Ah, Juventus Stadium, c'est plus sympa. 3-0 pour les Turinois, effectivement à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. 3-0 grâce notamment à Mandzukic qui avait ouvert le score. Une belle équipe de la Juventus de Turin, un but également de Gonzalo Higuain. Higuain remplacé à la 65e minute par Blaise Matuidi. Premier match avec la Juve pour l'ancien Parisien qui porte comme à Paris le numéro 14, et la Juve qui ouvre cette journée avec un beau succès. La Juve qui reste sur 6 titres d'affilée et qui est bien lancé dans cette saison en Italie.
Voilà, puisque c'est le premier match donc de cette Serie A. Il y aura tout à l'heure à 20h45 un match entre l'Hellas Vérone et le Napoli, match qui nous intéresse tout particulièrement puisque le Napoli, je vous rappelle, est adversaire de Nice la semaine prochaine en barrage retour de la Ligue des Champions. Victoire des Napolitains 2-0 au match aller au San Paolo. On va aller à Montpellier, au stade de la Mosson, Montpellier-Strasbourg, retrouver Florent Germain. Salut Flo.
Salut Arnaud, salut à tous.
Et tu assistes ce soir au match au ventre mou ICO entre le 11e et le 13e Montpellier-Strasbourg. Deux équipes qui ont pour l'instant des trajectoires similaires, on va dire.
Voilà, un tout début de parcours effectivement similaire, une victoire et une défaite. Donc effectivement le ventre mou de ce début de saison, même si évidemment le classement ne veut pas dire grand chose. Il y a eu cette belle victoire pleine d'émotions pour l'hommage à Loulou Nicolin lors de la première à domicile. C'était une victoire contre Caen du côté de Montpellier, le petit accro à Toulouse sur le même score. Et puis Strasbourg, quid de cette équipe du Racing qui doit normalement surfer après cette remontée en Ligue 1. Elle en avait pris 4 du côté de Lyon, et puis elle a réagi dans les circonstances que l'on sait face à Lille et à des gardiens de fortune. Une victoire 3-0 qui s'est dessinée en fin de rencontre. Donc voilà, que va donner ce Montpellier? Je vous annonce déjà, avant de donner les compos un peu plus tard, qu'il y a 6 joueurs, 6 recrues titulaires dans ce 11 de départ, plus 2 qui n'étaient arrivés que l'hiver dernier. Donc c'est vraiment un Montpellier new look. C'est pour ça qu'on a à cœur de savoir ce que ça va donner, et puis dont les Strasbourgeois un petit peu voir si ce sera le Strasbourg qui a joué à Lyon ou celui qui a reçu Lille de Bielsa. Et puis circonstances et donc début de saison un petit peu similaire, mais malgré tout des dernières années, ou 8 dernières années, qui ont été totalement à l'opposé. Pourquoi je parle des 8 dernières années, Arnaud? C'est parce qu'on va un petit coup de nostalgie. C'était le 29 mai 2009, c'est le dernier match entre Montpellier et Strasbourg. Ça nous rajeunit un petit peu. Julien Landry n'était même pas père de famille à l'époque, tu vois. C'est
je croyais que t'allais dire qu'il n'était pas né.
Non, il était pas papa, mais il avait du coffre. Écoutez, c'était la remontée, et ici les Montpelliérains n'oublieront jamais ce soir du 29 mai 2009 pour la remontée en Ligue 1 des hommes de Roland Courbis.
Tous les supporters sont agglutinés autour de lui. Roland le voit sur les images. Il est en pleurs. C'est normal, ça fait 5 ans que Montpellier attendait ça. Et voilà, tout le monde lui a grippé les cheveux. Il essaye de toucher Roland, le héros de Montpellier. Roland, il est en pleurs. On le voit, il est tout rouge. Il est heureux, Roland. Il est heureux. Ah, c'est beau cette image. Elle est belle l'image de Roland. Il crie sa joie. Roland Courbis, ça y est. Ça y est. Roland, il s'est arraché de la foule et il passe sous le tunnel.
Oh, il n'en peut plus, Roland.
Il n'en pouvait plus, Roland. Mais voilà, ça prouve la passion du public montpelliérain. Ils attendaient ça depuis 5 ans. On les voit dans les vestiaires. Montpellier, monsieur, est en Ligue 1, retrouvera l'élite 5 ans après l'avoir quitté.
Bon, Roland. Vendredi 29 mai. Hein.
Ouais, bon, c'est vrai que bon, ouais, ça me fait énormément plaisir et d'autant plus.
C'est
bon,
que avec, Julien Landry, il était quand même.
Avec la musique des Mouvrines, j'étais en train de réfléchir, chacun ses goûts, mais c'est difficile. Je crois.
Bon, mais voilà.
Ça
voilà.
Fait du bien hein, de réécouter ça.
Hein. Oui, oui, oui. Alors Roland qui n'est pas à nos côtés ce soir, mais tu vois, il l'avait réécouté quelques années après et ça lui avait encore mis les larmes.
Et trajectoire opposée, ouais. D'ailleurs, Arnaud, juste un petit mot là-dessus. Depuis ce fameux match et la remontée en Ligue 1 de Montpellier, il y a eu de belles années du côté du Montpellier Hérault avec évidemment le titre de 2012 des joueurs qui ont enflammé un petit peu la Mosson, on va pas tous les citer, mais les Giroud, Cabella, Belanda sont passés par là, donc il y a eu de belles années. Puis à l'inverse, vraiment Strasbourg avait entamé un petit peu cette période où il a fallu manger son pain noir et puis s'être remonté petit à petit vers les sommets avec une identité alsacienne. Donc vraiment depuis cette date là il s'est passé beaucoup de choses et là il se retrouve les deux clubs face à face à 20h tout à l'heure.
Allez, les compos des l'essentiel des compos flow des deux équipes.
Bah écoute, je parlais d'un visage new look pour Montpellier parce que il y a 6 recrues et surtout un visage très offensif. On aura d'ailleurs à l'œil l'Uruguayen Piriz pour sa première apparition sous les couleurs de Montpellier, lui qui sera au milieu de terrain en côté de Lan, et je parle de visage assez offensif car on va trouver Mbenza, Sio, Berigo et Cessegnon alignés ensemble, donc visage a priori sur le papier assez séduisant puisqu'on est dans le secteur offensif. Je vous donne les quatre qui seront chargés du côté de Strasbourg d'aller pourquoi pas causer des problèmes au gardien montpelliérain Benjamin Lecomte. Le quatuor offensif de Strasbourg, ce sera Sacco, Cornier, Gonsalves et Saadi à la pointe de l'attaque strasbourgeoise. Strasbourg qui sera encouragé et soutenu par quasiment 400 supporters alsaciens. C'est à signaler, 8000 personnes environ attendues ce soir à Montpellier.
Écoute, on voit donc à la Mosson dans 9 minutes. On va aller au stade de l'Aube retrouver Lucien Denis pour la présentation de la rencontre entre Troyes et Lens. Salut Lucien.
Salut Arnaud, bienvenue à tous, bienvenue au stade de l'Aube. Troyes qui reste sur un joli début de saison et qui doit confirmer également Lucien.
Exactement, les Niçois qui ont été eh bien les victimes des Troyens le week-end dernier avec l'ouverture du compteur de l'attaquant Troyen Niam Adabanyan, pardon, et qui a permis aux Troyens de prendre les 3 points. Effectivement, eh bien les Troyens qui aimeraient bien surfer sur cette vague de bons résultats parce que eh bien on se souvient hein, qu'il y a 2 années cela en Ligue 1, ça avait été quand même catastrophique. Et là, eh bien évidemment, tu as raison Arnaud de le dire, les Troyens comptent effectivement eh bien, poursuivre leur marche en avant en bataillant ce soir.
Et face aux Troyens, face aux attaquants Troyens, on regardera de près la prestation côté nantais du gardien Cyprien Tataruzanou, international roumain.
Exactement, il aura en face de lui Adamanyan, hein, le meilleur buteur de la Ligue 2 l'an dernier, avec 24 buts. Le buteur Troyen qui, je te l'ai dit, a ouvert son compteur à Nice la semaine dernière. Et le gardien roumain, eh bien tu l'as dit, Cyprien Tataruzanou, qui a véritablement fait une très très belle performance face à l'OM. Et là, on va bien sûr suivre ce duel à distance, même s'il n'y en est malin. Et bien l'international roumain, lui, est un très grand gardien, donc on va voir.
Ah ben justement, les compos des deux équipes pour cette rencontre, Lucien.
Ouais, bah effectivement, tu l'as douté du côté nantais, c'est un petit peu compliqué pour Claudio Ranieri, puisque il a beaucoup de blessés. Hein. Diego, Carlos, Valentin Rongier, Alexander, Kalixic, Yassim Bamou, et bien tout ça, ce sont absents ce soir, ne serait-ce que Nicolas Palois également, qui est suspendu. Il a donc titularisé et bien, au poste d'arrière droit Anthony Wolongois, un jeune de 23 ans, qui débutera ce soir son 5e match en Ligue 1, et puis devant David Alcibiade, joueur de 25 ans qui était en division 3 espagnole l'an dernier et qui sera associé eh bien, à Emilio Sala, l'Argentin, dont on compte sur la Grinta ce soir. Côté Troyen, Karim Azaboum retrouve sa place à la place de François Belougou, sinon pas de changement. La même équipe que celle qui a remporté le match à Nice la semaine dernière avec bien sûr l'incontournable capitaine et talentueux Benjamin Nivet.
Merci Lucien, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette rencontre dès 20h sur RMC. Petit détour par la Première Ligue, Stock City Arsenal avec l'entrée d'un Français sur la pelouse, Morel Lou.
Eh oui, Olivier Giroud hein, qui avait permis à Arsenal de l'emporter lors de la première journée face à Leicester en marquant ce dernier but pour l'emporter 4-3 vient de faire son entrée en jeu à la place d'un défenseur, à la place de Kolasinac. Espérons donc pour les Gunners que ça permette, eh bien, ça leur permette de revenir au score puisqu'ils sont menés 1-0. Et là, dans la surface, la frappe, mais la parade finalement de Butland qui est vraiment très bon cet après-midi. Il a eu quelques interventions à faire et il les a toujours fait très justement. C'était Welbeck qui avait bien été trouvé dans la surface de réparation. En tout cas, oui, voilà l'entrée d'Olivier Giroud associé donc à la casette. Peut-être que ça peut permettre aux Gunners, c'est bien, de revenir au score. 67 minutes de jeu et Stoke qui mène toujours 1-0 face à Arsenal.
Dans ce match de la deuxième journée de Première Ligue que vous vivez à la radio sur AMC, à la télé sur SFR Sport. Résultat également lors du match d'ouverture de la Serie A, la Juventus qui vient tout juste de battre Cagliari 3-0 ce soir. L'Hellas Vérone jouera face au Napoli à 19h54. On va partir au Roazhon Park, direction la Bretagne. Rennes-Dijon, c'est l'affiche qui va se dérouler sous les yeux de Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Roazhon Park alors que les deux équipes sont prêtes à rentrer sur le terrain.
Et côté Dijonais, sans Wesley Saïd, l'ancien René, il y a un petit imbroglio autour de ce joueur. Hein.
Oui, effectivement, on attendait de voir la feuille de match. Il n'est pas sur la feuille de match, Wesley Saïd, l'ancien Rennais transféré à l'intersaison du côté de Dijon. En fait, il y avait une petite ligne sur le contrat qui stipulait qu'il ne pouvait pas jouer ce match aller contre son ancien club, alors qu'il n'y a rien qui autorise ça logiquement. Et Olivier Dalloglio, l'entraîneur dijonnais, bien respecte cet accord moral. Finalement, on empêche un joueur de travailler, donc c'est un peu surprenant quand même. Il a même dit on peut plus être surpris par ce qui se passe dans le football. Le football, il faut s'adapter désormais, mais c'est un fait unique dans les annales, ce genre de choses. Donc effectivement, on va surveiller ça parce que ça a pas plu du tout du côté de l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels, qui a dénoncé cette situation. Donc on verra si dans les années à venir, dans les mois à venir, éventuellement au prochain mercato d'hiver, il y a ce genre de clause encore qui puisse être écrite dans un contrat. Mais rien n'empêchait finalement le joueur d'être présent au début de cette rencontre. Olivier Dalloglio a été plutôt correct avec le club rennais. Il a voulu éviter les incidents.
Deux clubs en tout cas, deux clubs rapidement pile dans l'urgence de résultats ce soir. Rennes 14e, Dijon 20e, Lanternon.
Un petit point pour les Rennais seulement, 0 points et 7 buts encaissés surtout pour les Dijonais. 3-0 contre Marseille, 4-1 contre Monaco. Donc on va être très attentif là aussi à la défense dijonnaise. Ça va sans doute être assez fermé du côté des hommes d'Alloglio. Attention aux premières minutes effectivement, parce que eux les Rennais, ils ont intérêt à prendre rapidement des points s'ils veulent éviter d'être distancés dès le début de ce championnat.
L'essentiel des compos Pierre-Yves, côté Rennais, côté Dijonais.
Ouais, pas de grosse surprise. Gourcuff qui revient dans le groupe n'est pas sur le terrain pour le moment. C'est Moubele qui est à la pointe de l'attaque. Ben Sebani est titulaire. Ludovic Ball est sur le banc en défense. Et puis du côté Dijonais, c'est Kwon qui sera à la pointe de l'attaque. Et pas de surprise sinon pour Dijon.
Merci Pierre-Yves, on te retrouve dans 3 minutes, dans 2 minutes 50 même pour le coup d'envoi de cette rencontre entre Rennes et Dijon. Les 5 rencontres du soir donc, Nice-Guingamp, Saint-Etienne-Amiens, Montpellier-Strasbourg, 3 Nantes et Rennes-Dijon. Ça c'est les 5 rencontres de 20h, cette troisième journée de Ligue 1 qui a bien commencé. Hein. Victoire 1-0 hier de Monaco face à Metz à Saint-Symphorien, un but de Radamel Falcao. Je disais qu'elle avait bien commencé, surtout parce qu'on a eu un match absolument magnifique cet après-midi. 3 buts partout entre Lyon et Bordeaux. Ça c'était au Groupama Stadium, des buts de Fekir Tété et Traoré pour l'Olympique Lyonnais face à un doublé de Malcolm et un but de Leraguer pour les Bordelais. Les autres rencontres du week-end, on aura notamment demain l'Olympique de Marseille qui jouera face au SCO avec peut-être le président Emmanuel Macron en tribune au Stade Vélodrome, donc dans ce match entre Marseille et Angers. Et puis on aura, ça c'est sûr, Neymar demain au Parc des Princes pour le match à 21h entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. À tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Foot Liga.